conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour chers auditeurs. Alors, je reçois aujourd'hui Éric Dumontois, directeur général de GTA Environnement. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi GTA Environnement? Pourquoi un BETVRD? Parce que vous n'avez pas... cela ne vous a pas échappé, qu'il pleut des cordes et que malheureusement, une partie de la France est sous l'eau. Et donc, je vais d'abord demander à Monsieur Dumontois de présenter un petit peu le bureau d'études et de se présenter.
Voilà, donc GTA Environnement est un boito de VRD. VRD, c'est un nom un petit peu magique qui parle de voirie et de réseaux divers. On a des activités variées qui vont des programmes de promotion immobilière à la création de parkings pour les centres commerciaux, en tout cas la rénovation aujourd'hui, qui est un petit peu plus le cœur du sujet aujourd'hui.
Nous en parlerons, bien évidemment.
Voilà, les zones d'activité, les aménagements de zones. Le travail dans les milieux denses, le milieu urbain dense, comme on l'appelle aujourd'hui.
Alors justement, sur ce sujet, comment fait-on une cartographie des réseaux en tissu dense? Parce qu'on est confronté, évidemment, nous, architectes urbanistes, à cette problématique de cartographie. Et malheureusement, il nous arrive, j'ai un petit souvenir récent, il nous arrive d'avoir d'un seul coup, pouf, un réseau qui passe dans un foncier, le foncier, un concours gagné, etc. Puis évidemment, ça chamboule tout parce que... détourner un réseau, modifier un réseau quand c'est un fil de 2000, c'est quand même pas n'importe quoi. Comment fait-on pour essayer d'avoir un petit peu plus de données cartographiques?
Alors, on appelle les spécialistes déjà. Et puis, plus sérieusement, effectivement, aujourd'hui, il y a des cartographies qui existent. Il y a aussi un élément très important, c'est la réforme qui s'appelle sur l'anti-endommagement des réseaux, qui est une réforme importante pour nous, qui nous a obligés, d'une part, à nous former. On a tous nos collaborateurs sont formés avec ce qu'ils appellent l'AIPR, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux. Il y a aussi les maîtres d'ouvrage qui sont obligés aujourd'hui de maîtriser la position des réseaux dans leur parcelle ou dans leur emprise. Et puis, il y a surtout une obligation vis-à-vis des concessionnaires de réseaux de maîtriser la position de leur réseau avec un type de classe, de précision, de position des réseaux.
Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment la cartographie historique? Parce que quand on n'a pas touché un foncier depuis des années ou qu'on est en train de transformer un PLU qui fait qu'un foncier qui était espace sportif, donc du coup avec très peu de recherche sur les réseaux, devient un espace edificandi avec des logements, des commerces, etc., on s'aperçoit souvent que les services, les agglos, les gestionnaires ne sont même pas au courant de leur propre réseau.
Oui, vous avez absolument raison. Plus la rotation des gens qui étaient là pendant 20 ans et qui partent.
Justement, cette cartographie historique, ces données.
Alors, les choses se perdent. Il y a des choses qui existent. Hein. Parfois, on mène des enquêtes. On va remuer des cartons, sortir des vieux plans, prendre des archives. Et il y a aussi des technologies aujourd'hui qui permettent de retrouver des réseaux avec un système de résonance magnétique en surface, sans détruire ou sans casser les voiries, les terrains de foot, ça existe. Donc on a des systèmes pour repérer les réseaux, pour les positionner d'une manière très très précise, les positionner en trois dimensions, ça c'est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, il est possible de faire des plans en 3D avec tous ces réseaux présents, de manière à pouvoir faire passer
BIM
des fondations.
BIM is not BIM, c'est-à-dire
le
que,
BIM,
voilà, on a... ou notre BIM, parce qu'effectivement, malheureusement, pas tout le monde est à la pointe sur ce sujet. Je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque vous avez parlé de votre expérience de parking sur des zones commerciales, etc. Je vais faire un peu de provoque, évidemment, parce qu'aujourd'hui, rénover des grandes emprises commerciales, c'est normalement ne pas faire fi de ces surfaces immondes de bitume sur lesquelles viennent s'entasser des voitures.
C'est moche.
J'ai rien contre les voitures, j'ai rien contre le commerce, j'ai rien contre etc., etc. On va taper sur personne aujourd'hui puisque tout le monde est dans une situation extrêmement délicate. Comment fait-on pour rénover ces emprises commerciales et comment fait-on pour faire en sorte que ce bitume soit vertueux, si ça peut exister?
Alors, plusieurs réponses. Sur les projets neufs, il y a la loi Allure qui précise les surfaces qu'il est possible de construire, qui précise, extrêmement important, qui précise aussi, qui impose, on va dire, le fait de créer des zones de parking
infiltrantes. Une rétention à la parcelle, voilà. Ouais, bien sûr.
Donc c'est extrêmement important pour nous, puisque de mémoire, il y a 25% des places de parking qui ne doivent plus être étanches aujourd'hui. On limite les places, on infiltre le puits dans le sol, ça se dimensionne, on fait des mesures précises. Et puis, il y a aussi notre état
d'esprit. Mais en rénovation, puisque effectivement, ces emprises commerciales, aujourd'hui, elles sont amenées à évoluer, à se rénover. Comment fait-on ?
Eh bien, on échange avec le maître d'ouvrage pour porter d'autres sujets. La création d'îlots de fraîcheur, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Rentrer dans une voiture qui est à 50 degrés ou 60 degrés, aujourd'hui, c'est plus vraiment souhaitable.
Bon, les ombrières ne sont pas la seule solution.
Non, mais on fait aussi des ombrières avec des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, les BET VRD, on doit être capable d'amener plusieurs solutions.
Mais ça ne démolit pas le bitume.
Non, mais par contre, on fait autre chose des bitumes. On a des bitumes infiltrants aujourd'hui. On crée des noues, on gère le pluie de manière très, très différente.
Alors moi, sans je suis perdre assez âgé. Des places.
Hein. Oui, moi, je suis assez âgé pour avoir connu ça. Hein. Il y a 30 ans, on posait des tuyaux partout. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus de tuyaux.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que demain, votre part du métier qui est la gestion des eaux pluviales, on ne mettra plus de tuyaux, on ne mettra que des noues.
Oui, mais on les dimensionnera correctement. On va planter des essences végétales qui vont consommer les polluants lâchés par les véhicules, par l'usure des pneus sur les bitumes, même s'ils sont infiltrants. Et donc, notre métier change, notre métier évolue. On fait des choses bien très différentes, très réfléchies, en accord avec les urbanistes, en accord avec les paysagistes. Et aujourd'hui, si on dimensionne les choses correctement, on peut vraiment réduire l'impact de l'eau, d'une manière générale, de l'eau de pluie.
Alors, comment convaincre les services techniques des villes? Parce que ce n'est pas toujours une évidence, quand même, pour, je dirais, tout un chacun qui doit après faire dans la gestion, une fois que vous êtes parti, une fois que le bureau d'études a fait, je dirais, sa mission, les services vous disent « Oui, mais c'est nous qui devons porter la gestion pendant 5 ans, 10 ans, si les noues ne sont pas assez infiltrantes, si les plantes ne poussent pas, si le travail n'est pas bien fait. Ah, nous, on aime bien les vieux réseaux, quand même. »
Oui, c'est très pratique, un vieux réseau qui marche, mais qu'il faut entretenir également. Donc, des réseaux... Aujourd'hui, on a aussi un patrimoine d'ensemble des réseaux qui est assez vieillissant. On a beaucoup de programmes immobiliers qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec des réseaux qui sont en piteux état. Donc, on voit bien aussi que c'est un coût d'avoir des réseaux qu'on n'entretient pas. Avoir une noue que l'on peut tondre régulièrement, c'est pas si cher que ça, on va dire. Quand il faut refaire un réseau complet, ça coûte énormément d'argent et on ne voit rien. Quand on rénove une noue, on voit des choses, on voit des fleurs, on voit des arbres, c'est pas si mal.
Et la profondeur de la noue, c'est pas quelque chose qui parle aux oreilles des SPS et qui crée un problème avec les bureaux de contrôle, etc. Parce qu'il y a aussi cette gestion de la noue et de sa profondeur.
Oui, alors c'est assez récent, mais le Sénat se préoccupe de ces questions d'ailleurs. Et sans doute, il y aura bientôt un texte qui précisera le besoin de créer soit des clôtures, soit des espaces qui empêchent d'aller...
Non, c'est absolument terrible. Oui, ah là 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 là. La législation française qui considère qu'au-dessus de 40, en dessous de 45, 45, c'est le chiffre maudit où tout est dangereux.
Oui.
Et puis les noues, ça peut être dangereux, donc on va mettre des clôtures. Donc ça va être très élégant, on va mettre des clôtures autour des noues.
Oui, alors oui. Peut-être qu'on mettra des ganivelles un petit peu plus élégantes, ou peut-être qu'on mettra des clôtures végétales avec peut-être des épines.
Ça veut dire que c'est sacré de fait. Un paysagement qui n'est peut-être pas dans l'esprit de ce qu'avait souhaité le paysagiste et l'urbaniste.
Absolument, absolument.
Ah là là. Bon, je ne dirai rien, mais j'en pense pas moins. Mais vous aussi, chers auditeurs, n'est-ce pas? J'attendrai évidemment vos remarques sur le sujet. Alors, j'étais à environnement. Le mot environnement, qu'est-ce que ça veut dire chez vous?
Alors, l'environnement, en fait, on a utilisé le terme qui est employé par les collectivités, en fait, dans lequel on résume tout ce qui est les services de la ville sur l'eau, sur l'assainissement, sur la collecte des déchets, sur l'entretien des espaces verts, par exemple. Alors pourquoi? C'est parce que nous, on veut être un BET VRD, on va dire, généraliste et très classique. On crée des voiries, des réseaux, on fait des trous, on rebouche, on fait des enrobés. Mais en même temps, moi, on veut que les collaborateurs soient en capacité de comprendre les sujets.
Ça veut dire que vous faites de la formation sur les problématiques d'environnement?
On fait beaucoup de formations en interne, on fait beaucoup de formations avec des gens très spécialisés.
Des enquêtes
Des enquêtes aussi. On se forme notamment sur la LTECV, que peu de gens connaissent.
Qui est quoi? Expliquez à nos auditeurs, s'il vous plaît.
Un mot magique, la LTECV, c'est la loi sur la transition écologique et la croissance verte. C'est une chose qui est peu connue, on va dire, par le milieu, les promoteurs, les architectes, peu importe. Et ça consiste vraiment à quantifier les matériaux qui vont être extraits d'une route qu'on va rénover, par exemple. On a l'obligation de les recycler.
Donc le Cradle to Cradle, qui est donc, sur lequel j'ai fait une émission d'ailleurs avec le groupe Cardam et David, parce qu'effectivement, c'est un des points extrêmement importants dans le recyclage des matériaux, quels qu'ils soient, mais c'est vrai que peut-être encore plus en matière de voirie.
Oui, absolument. Et on a beaucoup progressé sur le sujet. Il y a vraiment un effort à faire chez les maîtres d'œuvre pour imposer ces sujets, les suivre.
Mais qui absorbe le coût ? Parce qu'en fait, c'est ça. Quand le foncier est cher les obligations environnementales pèsent, comment fait-on pour arriver à concilier tout ça ?
Ben, on passe beaucoup de temps en fait à faire de l'économie, à réduire les choses au minimum, à se poser la question de dire est-ce qu'il faut vraiment faire des bordures, est-ce qu'il faut vraiment faire des tuyaux. On sait qu'une noue aujourd'hui c'est moins cher qu'un tuyau, clairement.
Mais enfin la noue avec la clôture, ça risquerait d'être plus cher quand même.
Et on va essayer de faire de clôture alors.
Voilà. Bon. Et alors du coup, comment fait-on pour envisager la gestion des eaux pluviales demain quand on voit qu'il y a énormément d'inondations, hein, ce qui se passe aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne? Comment fait-on pour gérer tout ça?
On désimperméabilise, j'ai réussi à le dire. Il y a des parcs naturels régionaux notamment qui se posent des questions de manière très rapide. Là, on bosse sur le plein air de l'Oise, par exemple, qui se posent des questions. Et on va aller désimperméabiliser des zones de parking, des trottoirs. On va créer des noues, on va réduire l'impact. Et ça, c'est vraiment un sujet extrêmement important. C'est très novateur pour nous. On n'est pas forcément habitué à raisonner de cette manière. Et ça s'impose à de plus en plus de maîtres d'ouvrage. Ça s'impose à de plus en plus d'architectes qui réfléchissent sur ces sujets et qui veulent, en fait, qui se positionnent pour dire « Non, moi, je veux pas de tuyaux, par exemple, ou je veux voir l'eau circuler. » Il faut réduire ces impacts. On voit bien que c'est extrêmement important.
Oui, mais on va rajouter une couche de législation sur la législation avec certaines idées. Une noue, oui. La clôture qui va avec, non.
Voilà. Bah, peut-être qu'il faut se poser la question de faire mieux, de faire peut-être un muret de pierre sèche, un gabion, comme on le faisait avant. Il y a des régions, dans le Languedoc notamment, où il y a ce genre de choses qui existent, en fait. On va créer du milieu naturel, en fait. En résolvant des problèmes. Et c'est quand même pas mal.
Bon, les problèmes ne vont pas être résolus juste par cette interview, mais merci Éric Dumontois, directeur général de GTA Environnement, d'être venu au micro et de commencer doucement à nous expliquer les réseaux de demain. Merci, chers auditeurs, et évidemment sur Radio Immo.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.